Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio, en réponse à la fermeture massive des écoles qui commence à rouvrir dans certains pays, certaines classes, mais laisse une majorité d'élèves à la maison. Alors cette semaine, pour l'école à la radio, nous sommes en compagnie de l'enseignante Sarah Vauquier. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
Toujours au village, en Franche-Comté, dans les montagnes. Sarah, on peut retrouver vos activités d'apprentissage dans votre livre « L'école à ciel ouvert » qui a été publié aux éditions La Salamandre. Vous êtes enseignante et aujourd'hui, après des semaines de confinement plus ou moins strictes, les enfants ont tous besoin de bouger. Et c'est pour ça que vous nous avez concocté un petit programme assez mobile.
C'est ça, aujourd'hui on va réaliser, dessiner, décrire un parcours sportif et puis cette semaine on va aussi faire chaque jour une activité dans votre espace nature personnel.
L'espace nature personnel, vous nous expliquerez bien sûr ce que c'est pour ceux qui n'ont pas suivi vos dernières séances. Ensuite, l'histoire du jour où la loi du plus fort n'est pas toujours celle que l'on croit. Trois petits singes, des léopards, un boa, un crocodile et des buffles. Et puis, en fin d'émission, Sylvia Serbin revient avec une nouvelle héroïne du continent africain, la reine Anzinga d'Angola, symbole de la lutte contre les tentatives d'invasion portugaise de son pays jusqu'à sa mort en 1663. La reine avait 82 ans. L'émission est réalisée en direct chaque jour avec une équipe en confinement et en studio. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même, votre serviteur. Et bien sûr, vous postez toutes vos réactions, vos témoignages, vos questions sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une LUCAM. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Sur WhatsApp, on a eu pas mal de messages. Sarah Vauquier, vous vous souvenez de l'activité que vous aviez fait faire aux enfants sur les animaux de compagnie?
Tout à fait, ben sur toutes sortes d'animaux. Hein. Une mouche, ça va aussi, comme une vache. Donc oui, vous savez, interroger des animaux sur différents aspects, où ils habitent, comment ils mangent, comment ils entendent, etc.
Ouais, et ben je peux vous dire que les enfants avaient beaucoup de choses à dire sur les animaux qui les entourent.
Bonjour Tata Emmanuel, je m'appelle Adjame Gankoku Victor, je suis au CE2B, à l'EPE. Elle est lauréat Lomé Togo. J'ai choisi le chien qui s'appelle Kissé. Il se déplace avec ses quatre pattes, voit avec ses yeux et sent avec ses narines. Kissé respire, ha ha ha. Il habite à la maison, mange du riz ou la pâte et fait pipi et caca sur les déchets de charbon de bois. Point.
Je suis en Haïti. Voici les réponses aux questions posées. J'ai une chatte qui s'appelle Minou. Elle se déplace en marchant. Elle a deux couleurs de yeux différentes. L'un bleu, l'autre blanc. Elle a deux oreilles. Elle respire par le museau. Elle habite à la maison avec moi et mes parents. Elle ne mange que de la viande et boit du lait et de l'eau. Elle fait pipi et caca dans la litière que maman a préparée pour elle, c'est tout. Et merci.
Ici à Cotonou, le soleil brille. Il fait très chaud. La température est 37 degrés.
Bravo Tempérance pour ce message. Tempérance, elle a 5 ans. Hein. Elle a repris votre exercice, Sarah, sur le temps et la température. Hein. C'est bien ça. 37 degrés à Cotonou, nous a-t-elle dit.
Waouh, ben là, c'est un peu moins. Heureusement.
Chez vous, oui. Sarah, dans quelques instants, on va démarrer. Et bien sûr, je vous redonne notre compte WhatsApp pour tous ceux qui veulent réagir, questionner. Envoyez aussi des messages pendant le direct si ça va trop vite, si c'est pas clair. N'hésitez pas surtout à nous dire pour qu'on puisse nous adapter à vos besoins. 33 1 84 22 71 71.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Sarah Vauquier, on commence la semaine avec vous en douceur pour se sentir bien. Dites-nous peut-être juste en deux mots, quel est l'objectif de la séance que vous proposez aux enfants aujourd'hui ? Parce que les parents écoutent, ou les grands frères, ou les tatas, des adultes aussi.
Tout à fait. Alors, j'ai un objectif pour toute la semaine, c'est de se sentir bien, bien-être psychique comme physique, et développer sa motricité. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler la motricité. On va aussi apprendre de se repérer dans l'espace, de dessiner en plan et de décrire, soit par oral, soit par écrit, le parcours sportif que vous allez créer.
Alors, le parcours sportif, en effet, on va y arriver. Vous parliez de motricité, c'est vraiment la faculté de bouger ses membres de la manière la plus précise possible. On sait que pour les enfants, c'est difficile, forcément.
C'est en fait un enfant, et il a besoin de bouger tout le temps, hein, ça c'est un peu comme inné. Et puis j'explique peut-être pour vous, aux enfants, pourquoi c'est important de bouger aussi quand vous faites des leçons à l'école. Parce que le corps, les mains, la tête, ça va tout ensemble. Si vous faites des exercices de manière active, en bougeant, en faisant des choses avec vos mains, avec tous vos sens, vous allez comprendre mieux, vous pouvez mieux vous concentrer, et puis en plus ça fait plaisir, vous êtes motivé d'apprendre.
Alors vous commencez cette semaine tous les jours avec une petite visite à l'espace nature. Chacun de nous on a son espace nature. Alors qu'est-ce que c'est exactement, dites-nous.
Oui, ça c'est un exercice qu'on a commencé il y a 2 semaines. Je vous ai donné la tâche de chercher chez vous un petit espace nature qui vous plaît et où vous vous sentez bien. Et si ce n'est qu'un regard par la fenêtre, si vous n'avez pas le droit de sortir. Et à cette époque, je vous ai dit de le percevoir avec tous vos sens, de vous demander mais qu'est-ce qui me plaît ici particulièrement, et puis de donner un nom à votre espace nature personnel. J'espère que certains d'entre vous, vous avez pu le visiter à différents jours et à différentes heures aussi de la journée, et que vous avez comparé. Qu'est-ce qui reste toujours pareil dans...
Allô Sarah ? Ah, on a un petit problème de ligne téléphonique. En tout cas, l'espace nature, alors ça peut être, Sarah vous le disait, un regard par la fenêtre, ça peut être un petit coin dans la cour, au fond de la ruelle, dans le jardin, sous un manguier où on se sent bien enveloppé, car c'est vrai que les enfants aiment bien se sentir protégés aussi. Et Sarah, on est en train d'essayer de la rappeler pour proposer aux enfants un exercice de respiration. Parce que tous les jours, Sarah va vous proposer de faire quelque chose, peut-être un moment un peu calme aussi, avant de bouger, pour mieux percevoir les sensations autour de soi, etc. Sarah, on vous a retrouvé. Donc, on démarre avec un exercice de respiration. Ah, ça a recoupé. Alors, je vais le faire à la place de Sarah, l'exercice de respiration. Parce que Sarah nous le disait, ça fait aussi partie de l'éducation physique et sportive. Dans tous les sports, il faut commencer par apprendre à respirer. C'est ça qui donne de la force, qui donne de l'énergie. Vous allez commencer par respirer profondément, chacun d'entre vous, donc, très profondément, et de vous demander d'où vient ce souffle que vous avez respiré. Est-ce que c'est le même souffle maintenant que vous vous concentrez ? Est-ce que c'est le même souffle que d'habitude ? Et qui a respiré ? Ah, ça y est, on a retrouvé Sarah. Ça y est, Sarah, on a commencé.
Avec vous, oui.
On a commencé à respirer sans vous.
Continuez à respirer.
Voilà, on a pris simplement une grande inspiration. Et j'ai dit aux enfants que, évidemment, à partir du moment où on est conscient de sa respiration, on ne ressent pas la respiration tout à fait de la même façon que quand on s'en occupe pas du tout, évidemment.
Oui, tout à fait, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, justement, je vais vous proposer un exercice de respiration que, après l'émission, vous pouvez le faire dans votre espace personnel en nature. Et on va le faire déjà ensemble maintenant à la radio. Donc vous avez déjà respiré profondément.
Oui.
Et imaginez-vous d'où vient ce souffle que vous avez respiré. Où était-il il y a une minute?
C'est de l'air qu'on a pris autour de nous, qui a traversé notre corps.
Et qu'on ressort, hein, un peu modifié. Imaginez-vous, qui a respiré ce même souffle, ce même air, il y a 2 ans?
Il y a 2 ans?
Peut-être que si vous avez 10 ans maintenant, vous avez eu 8 ans, il y a 2 ans.
Mmh.
Qui a pu respirer cet air?
Pendant ce temps, les enfants continuent à respirer?
Bien sûr, sinon on va s'étouffer. Hein. Imaginez-vous, on va aller plus loin dans l'histoire encore. Qui a pu respirer ce même souffle il y a 200 ans?
200 ans, mais Sarah, vous nous posez de ces questions.
200 ans, hein. On n'avait peut-être pas encore les voitures à ce temps-là.
Non. Alors effectivement, tout le monde respirait de la même façon, ça c'est sûr et certain.
C'est sûr, tout à fait. Hein.
Même si on circulait uniquement avec des charrettes.
C'est aussi vers les animaux, hein. C'est pas peut-être que des humains qui ont utilisé ce souffle. Hein. Et on va aller plus loin encore. Il y a 2000 ans.
Ouh là là.
En l'an 0. Hein.
Et il y avait bien de l'air à respirer sur la planète.
Oui, tout à fait. Et encore moins de voitures, encore moins de machines qu'il y a 200 ans. Et là, on va encore aller très très loin. Où était ce souffle il y a 20 000 années?
Et
là, on est dans le néolithique, voire même avant.
Et pourquoi vous nous posez toutes ces questions, Sarah, pendant que nous respirons en vous écoutant?
Tout à fait, juste pour en fait se rendre compte que ce même air qu'on respire aujourd'hui, ça s'était partagé avec énormément plein d'espèces pendant des siècles, des milliers de siècles.
Ouais.
Hein. Même les dinosaures, ils ont dû souffler plus ou moins le même air que nous, on est en train de respirer maintenant.
Et cet air, il est indispensable à notre survie sur la planète. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le maintenir de bonne qualité.
C'est ça, puis dernière question, et où ce souffle sera-t-il dans 2000 ans?
En tout cas, pas avec nous, pas à travers notre corps. Dans 2000 ans, nous serons tous morts.
C'est ça, ouais.
Ça y est,
donc,
vous avez bien respiré.
J'espère que vous avez bien pu reprendre votre souffle maintenant, parce qu'on va faire du sport ensuite.
On est prêt, on est dans les starting blocks, comme pour les athlètes.
Ça. Ok, donc, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour créer un parcours sportif? Il y a sûrement des meubles, il y a sûrement des petits objets qui traînent à côté de vous. Je vais vous donner maintenant quelques exercices que vous allez réaliser avec un objet que vous trouvez aux alentours, dans la même salle. Vous êtes prêts?
On est prêts, Sarah?
Alors, on commence avec un slalom et avec courir. Aménagez votre salle en mettant quelques obstacles autour de vous. Par exemple, moi j'ai mis 2 chaises au milieu de la pièce. J'ai des peluches de ma fille qui sont un peu dispersées par terre. On peut aussi mettre des coussins.
Voilà, ou des corbeilles aussi, en vannerie, des paniers, tout ce que vous allez trouver, les enfants, que vous avez le droit bien sûr de prendre, de bouger. Et vous les mettez par terre et ça vous forme un parcours sportif.
Ouais,
alors
tout
vous
à
les
fait.
Disposez, pas collés les uns aux autres, bien sûr. Hein.
Oui, tout à fait. J'espère que vous avez fait ça maintenant, parce qu'on va commencer à courir. On va essayer de slalomer autour de ces objets sans les toucher. C'est bon? Vous êtes prêts? On y va, courez!
Alors, on court entre les objets. Alors moi, je ne vais pas pouvoir quitter le micro, puis je ne pourrais pas mettre le studio de RFI en désordre hein, pour mes collègues. Mais pendant ce temps, les enfants, vous êtes en train de courir dans la salle. J'espère que vous avez pu trouver, ou sinon, la petite cour devant chez vous. Et vous slalomez, ça veut dire courir entre les objets sans les faire tomber, sans les toucher.
Exactement. Je crois que c'est bon. Hein. Vous avez pu faire plusieurs tours et on va continuer avec les mêmes objets. Cette fois-ci, on va les utiliser pour faire un parcours d'obstacles et pour travailler notre agilité et puis aussi l'équilibre. Donc, pour ce parcours d'obstacles, trouvez quelque chose dans votre salle pour passer au-dessous Par exemple, moi j'ai une table, je peux passer au-dessous de la table. Trouver une deuxième chose pour grimper dessus, chez moi c'est la chaise, je peux monter dessus et puis redescendre. Et puis troisième chose, quelque chose pour marcher dessus en équilibre. Là j'ai un pull qui est un peu plié par terre et là je peux en fait marcher dessus en équilibre sans tomber, toujours en touchant ce pull.
Je sens qu'il y a des mamans qui vont arriver dans la maison, qui ne vont pas comprendre ce qui se passe avec leurs enfants, hein, là.
Ça, c'est possible. Si vous n'avez pas un vêtement ou pas le droit de les poser par terre, peut-être dans votre parquet, il y a des traits. Moi, j'ai du bois par terre, je vois des traits parallèles partout. Donc ça, on peut aussi utiliser pour marcher dessus.
Ouais. Ou tout simplement une corde, hein, ou un fil. Et on peut inventer qu'on est un funambule et qu'on est en équilibre sur le fil. Et on travaille l'équilibre. Parce qu'il ne faut pas marcher à côté du fil.
Tout à fait. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez trouvé quelque chose pour passer au-dessous, quelque chose pour passer dessus, pour grimper dessus, et puis une troisième chose pour marcher dessus en équilibre. Donc, on va maintenant essayer de faire ce parcours d'obstacles en passant dessous, dessus, en marchant en équilibre. Et si marcher en équilibre, c'est trop facile pour vous, vous pouvez marcher en arrière. C'est parti, marchez maintenant.
Allez, c'est parti. On saute, on rampe. Alors, les enfants, ils peuvent même ramper sous une chaise, hein, parce qu'ils sont petits.
Bien sûr.
Et on marche en équilibre, en avant, en arrière. Alors, ils sont en train de s'activer, les enfants. On peut en même temps qu'ils bougent, évidemment, donner des instructions pour l'étape suivante, Sarah, pour ce parcours sportif.
C'est ça. L'étape suivante, c'est sauter. Et
oula.
Pour sauter, il vous faut 5 objets que vous pouvez poser par terre. Par exemple, 5 crayons couleur. Et vous devriez les espacer de manière que vous pouvez sauter pieds joints entre les objets. Alors, par exemple, chez moi, j'ai 5 crayons couleur. Il faut que je saute toujours entre 2 crayons pour sauter 5 fois.
Donc, il faut laisser de la place pour les pieds pour atterrir à chaque fois, hein, entre les crayons.
C'est ça. Voilà. Et il faut prendre des objets qui ne roulent pas. Alors, pas des billes, par exemple.
Ouais. Et puis, des objets, si possible, qui ne se cassent pas. Hein. Mettez pas la vaisselle de maman par terre. Hein, parce
ni
que...
de banane.
Voilà, pas de banane, rien qu'on puisse écraser. Ça peut être des bouchons de bouteilles, bien sûr, aussi. Hein.
Bien sûr, tout ce qui est possible.
Voilà.
Et j'espère que vous avez trouvé 5 objets. Alors, maintenant, on va essayer de sauter en amont, ensemble, entre les objets. Ça va nous faire 5 sauts. Vous êtes prêts?
Allez.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5.
J'ai l'impression que vous sautez en même temps, Sarah.
Moi, je saute.
Ah oui, c'est ça.
Crayon par terre.
Oui, parce que
ok, mais c'était peut-être facile. Vous osez faire la même chose en arrière, hein, en sautant en arrière.
Ah.
Si c'est trop difficile, on fait la même chose en amont. Hein, mais pour les, disons, les un peu plus courageux qui osent, on va faire la même chose en arrière. Vous êtes prêts?
Allez, c'est parti.
1, 2, 3, 4, 5. J'espère que tout est encore par terre.
C'est bon, personne n'est tombé. Ouais.
Ok, prochain exercice. On va lancer des choses. Donc, prenez votre gomme ou quelque chose qui est un peu mou, pas trop dur, pas en caillou. Et puis, on va essayer de lancer la gomme dans quelque chose. Ça peut être votre trousse, une assiette, un panier, un bac que vous devriez chercher maintenant. Trouvez quelque chose pour lancer la gomme ou un petit objet dedans.
Ouais. En gros, on va jouer au basket, quoi. Hein,
c'est ça, un basket miniature, je dirais. Donc voilà, essayez de lancer autant de fois jusqu'à ce que vous réussissez. Maintenant.
Sarah, le temps presse vachement vite aujourd'hui, ça passe très très vite. Il y a encore quelques exercices du parcours sportif et ensuite il va falloir dessiner le parcours sportif. Et le temps n'est pas extensible chez 7 milliards de voisins. Alors bien sûr les enfants, vous pouvez réécouter l'émission grâce au podcast, à l'appli RFI Pure Radio pour pouvoir reprendre tous les exercices et les faire autant de fois que vous le souhaitez. Rouler, glisser maintenant, c'est la nouvelle et l'autre étape.
C'est notre étape. Alors, tout simplement, faites une roulade. Soit vous roulez autour de vous comme une saucisse, ou bien vous faites, vous roulez en commençant par votre tête, puis le dos, hein, la culbute, on appelle ça en Suisse. Juste une roulade maintenant. Ça, je fais pas avec mon téléphone.
Non, il vaut mieux pas. Roulade, galipette. Et ensuite,
Dernière force, trouvez-vous un objet lourd et essayez de le porter 5 pas. Par exemple, moi, j'ai deux chaises que je porte avec les deux bras, où je me mets des coussins sur la tête, où je prends une casserole avec une seule main.
Une casserole. Alors, si possible, pas avec de l'eau bouillante, hein, les enfants,
non.
Pour entraîner sa force.
C'est plutôt vide.
Voilà. Mais c'est très important d'entraîner sa force parce qu'ensuite, le jour où on est capable de soulever une casserole avec de l'eau bouillante, on sait que sa force ne va pas faire défaut et qu'il n'y aura pas d'accident parce qu'on sera bien attentif.
Tout à fait, c'est ça. Puis maintenant, il faut prendre un petit moment pour ranger votre parcours et puis remettre la salle telle qu'elle était avant.
Oui. Parce que l'école à la radio, là, aujourd'hui, c'est devenu une séance d'athlétisme, en fait. Hein.
On pourrait dire. Hein.
Pourquoi tous ces exercices? Je crois qu'il faut encore le réexpliquer aux enfants. À quoi ça sert? Ils s'attendaient peut-être à faire une dictée aujourd'hui ou des mathématiques. Enfin, on en fera demain des maths, mais...
Pourquoi? On va écrire là après aussi, mais c'est très très important pour la bonne santé hein, du corps, mais aussi de l'esprit et pour toute notre santé, tout notre corps de bouger. Et puis justement, comme j'ai dit avant, ça nous facilite après de travailler avec la tête et puis on comprend mieux quand on touche avec les mains, par les sens et puis en faisant bouger le corps.
Alors justement, maintenant qu'on a bougé son corps, qu'on a ressenti dans son corps le parcours sportif, on va le coucher sur du papier, ce parcours sportif. Sarah.
C'est ça. Donc, après l'émission, vous allez bien sûr vous-même créer un parcours sportif dehors ou dedans, d'après vos possibilités. Et puis, j'aimerais bien que vous intégrez plusieurs domaines sportifs, comme on a s'est entraîné, courir, lancer, sauter, agilité et équilibre, rouler, glisser, force, danse, etc. Et une fois que vous avez réalisé ce parcours, vous allez le tester, l'améliorer, puis vous allez le dessiner en croquis sur une feuille. Ça veut dire, vous prenez une feuille, vous dessinez sur cette feuille les postes au bon endroit, comme vous les avez placés en réel, et vous faites des flèches qui indiquent les mouvements qu'on doit faire. Ça donne votre plan, en fait, de votre parcours sportif.
Donc, on dessine la chaise sous laquelle, par exemple, on a rampé, les bouchons de bouteilles, les crayons par terre, entre lesquels on a slalomé ou entre lesquels on a sauté. Tout doit figurer sur le plan du parcours sportif. C'est bien ça, Sarah?
C'est ça. Si vous passez au-dessous de la chaise, vous dessinez une flèche qui passe au-dessous de la chaise. Voilà. Puis, après, vous allez, bien sûr, décrire votre parcours. Les plus jeunes, les 6-7 ans, vous allez juste décrire à vos parents, à vos frères et sœurs. Et puis, en même temps, vous pouvez montrer, vous décrivez par oral. Et les plus âgés, 8-10 ans, vous pouvez faire pareil, mais vous allez aussi écrire votre description sur papier. Donc, à la fin, les 8-10 ans, vous auriez un dessin et un texte qui explique votre parcours. Ça, c'est pratique parce que vous n'allez pas l'oublier. Vous pouvez aussi l'envoyer à un copain ou une copine pour qu'elle, il peut faire la même chose chez lui, chez elle.
Et bien sûr, il faut, dans cette séance, laisser libre cours à son imagination.
Tout à fait. Alors ça c'est important et c'est aussi important de faire des exercices différents, pas toujours que courir et slalomer, mais de varier.
Est-ce que vous avez un exemple de parcours d'une de vos élèves à nous donner pour qu'on comprenne bien?
Alors oui, je vais vous donner le parcours sportif de Betty, qui n'était pas mon élève, mais une élève que je connais. Voilà. Elle a réalisé ce parcours en équipe dans la forêt. Et puis, je vais vous lire tout simplement ce qu'elle a écrit. Et vous pouvez vous imaginer en même temps les mouvements quand vous entendez sa description. Alors, son parcours, au début, on doit sauter à cloche-pied entre des bouts de bois.
D'accord. Donc, on saute sur une jambe.
C'est ça. Ensuite, nous devons marcher sur une poutre. Après, nous passons en dessous d'un portique. Suite à cela, nous sautons à pieds joints dans des carrés en bois. Puis, on saute au-dessus d'un tas de bois. Après, on slalome accroupi entre des bouts de bois.
Alors, on slalome accroupi, Sarah. Alors là,
on se fait tout petit comme un nain et puis on marche sur des petites jambes comme ça. On se fait tout petit en marchant. Voilà. Et puis, suite à cela, on rampe sous des bouts de bois. Après, on marche sur une bascule. Ensuite, on saute dans un tas de feuilles. Après, on saute par-dessus un bout de bois. Et pour la fin, on appuie sur un bout de bois en guise de buzzer. Voilà le parcours de Betty. Il est vraiment très, très saute-bouton, je trouve.
Voilà, ouais, exactement. Et on appuie sur le bout de bois à la fin. Et ça veut dire que c'est la fin. Alors, on peut même le chronométrer, hein, ce parcours.
Alors, bien sûr, hein, si vous voulez faire des mathématiques en même temps, hein, vous pouvez le chronométrer. Vous pouvez calculer même votre moyenne. Donc, chronométrer différents trajets que vous faites, différents parcours, toujours le même parcours et différents tours. Et puis, regardez, mais combien qu'il était le plus rapide, le plus lent, combien vous avez eu en moyenne.
Alors, je pense que les enfants, pendant que vous avez lu le parcours de Betty, ils ont eu le temps déjà de commencer à dessiner, peut-être pas de terminer, mais de commencer à dessiner leur parcours sportif avec des flèches pour montrer dans quel sens on court, on saute, on rampe, on slalome à cloche-pied, à quatre pattes. Pour les 8-10 ans, vous allez proposer maintenant de rajouter des choses sur le plan du parcours sportif, Sarah.
Alors oui, j'aimerais aussi que vous notiez les points cardinaux sur votre plan. Qu'est-ce que c'est les points cardinaux? Ce sont des points à l'horizon qui vous aident à vous orienter. Alors sur un plan ou une carte, on indique souvent les quatre directions est, ouest, nord et sud. Et si maintenant vous regardez par la fenêtre, où est le soleil?
Où est le
moi,
soleil?
Il faut que je regarde par une autre fenêtre chez moi, par exemple. Il est derrière mon dos, à droite.
Alors, de là où je suis, je ne vois pas bien parce que vous savez qu'en région parisienne, le soleil et le ciel, avec la hauteur des immeubles, c'est difficile de l'apercevoir. Est-ce que les enfants avaient repéré où est le soleil?
Ouais. Donc, savez-vous déjà où le soleil se lève chez vous et où il se couche? Donc, chez moi, il se lève à la bordure de la forêt, hein, droite derrière mon dos. Et puis après, il monte, là, à midi, il est tout en haut. Et puis, il redescend de l'autre bout du village, là, dans la prairie. Hein.
Les enfants, si vous avez le sens de l'observation, si vous regardez bien dans les jours qui viennent, vous verrez que le soleil se lève toujours au même endroit par rapport à votre habitation. Vous ne verrez jamais le soleil changer de position à la même heure. Tous les matins, il se lèvera au même endroit. Et ce même endroit, on l'appelle...
Ben, ce même endroit, on appelle l'est. Hein. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Voilà.
Et quand il est tout en haut, Sarah?
Mais il est normalement au sud, hein, à midi par exemple chez nous.
Alors là, on a cité trois points cardinaux, l'est, ben
oui,
l'ouest,
il nous manque encore le nord,
sud,
hein.
Ouais, le nord, qui est à l'opposé du sud.
C'est ça, exactement. Donc, sur votre plan du parcours sportif, même si vous faites le parcours à l'intérieur, notez un E pour est ou un E, on vous dit un E pour est, c'est là où, par rapport à votre parcours, le soleil se lève. Et notez un O pour ouest, ça s'écrit avec O, c'est là où le soleil se couche.
Alors, E pour est, O pour ouest, alors à quel endroit sur la feuille on va les placer ça?
Mais ça, ça dépend comment vous dessinez en fait sur le parcours sur votre feuille. Donc d'abord, vous dessinez le parcours et puis après, vous pouvez placer les quatre points cardinaux. Puis une fois qu'on a noté le E et le O, on essaye de placer le nord et le sud. Voilà, on a dit le sud, c'est là où le soleil est à midi. Et si le E, il est à gauche et le O à droite sur votre feuille, tout en haut de votre feuille se trouve le sud. Là, vous pouvez écrire un S. Et tout en bas de votre feuille se trouve le nord. Là,
voilà.
Vous pouvez écrire un N.
Donc, il ne faut pas se tromper. Le nord et le sud sont toujours à l'opposé l'un de l'autre. Et l'est et l'ouest, le E et le O, aussi sont à l'opposé l'un de l'autre.
C'est exactement ça. Et puis une fois, hein, si entre-temps vous avez trouvé où se lève le soleil, où il se couche, c'est bien aussi de dessiner la course du soleil juste avec un bras en l'air pour se mémoriser ce mouvement qu'il fait. Ça va vous aider à vous orienter après.
Alors, on a bien couru, on a bien sauté, on a d'abord on a bien respiré, ensuite On a maintenant le plan à la main de son parcours sportif qui est presque terminé, sinon on le terminera après l'émission. Et ensuite, Sarah, on arrive bientôt à la fin de notre séance.
Tout à fait, on arrive à la fin. Je vous prie de rester en mouvement et puis de ne pas oublier, une fois bien essoufflé de votre parcours, de rejoindre votre coin nature personnel pour vous relaxer et puis vous imaginez l'historique de votre souffle.
Voilà, le petit coin nature, sous un arbre, devant la fenêtre, un endroit où vous vous sentez particulièrement bien, un endroit que vous allez rejoindre à chaque fois que Sarah vous le demandera pour faire une activité, respirer ou autre chose, partir avec votre imagination. Sarah, vous savez que l'école commence à reprendre tout doucement. Je ne sais pas, vous êtes suisse, hein, Sarah, suisse-allemande. Je ne sais pas si.
Je suis suisse-allemande, ouais. Mais vu que j'habite en France, ouais. La petite, elle avait la première journée de l'école après le confinement aujourd'hui.
Exactement. Alors, certaines familles ont néanmoins peur d'y envoyer leurs enfants. D'autres préfèrent les utiliser, les enfants, comme aide à la maison et surtout d'ailleurs parfois les filles. Et un voisin à Brazzaville, au Congo, nous a posté sa chanson. Aller à l'école.
Il faut aller à l'école,
les enfants.
Il faut aller à l'école,
les amis.
Il faut aller à l'école,
les enfants.
Il faut aller à l'école,
les amis.
Voilà, il s'appelle Figaro Allemagne, il est artiste à Brazzaville et il a posté sur les réseaux sociaux. Et je vous conseille, les enfants, d'écouter la chanson pendant que vous referez le parcours sportif de Sarah Vauquier. En attendant le retour à l'école pour tout le monde, demain mardi, quel est le programme ? On sera toujours avec vous, Sarah Vauquier.
Oui, demain mardi, ça serait les mathématiques. On va travailler les tables de multiplication avec les objets du quotidien.
Et il faut préparer quelques petits objets.
Oui, exactement. Hein. Vous avez toujours besoin d'un crayon, d'une gomme, d'un crayon, d'une gomme. Demain, vous avez aussi besoin de 10 petits papiers. Donc, vous pouvez juste déchirer une feuille en 10 petits morceaux. Les 6-7 ans, il vous faut 20 objets qui restent sur place quand on les pose par terre. Hein. 20 objets. Et les 8-10 ans, vous, il vous faut 10 objets qui ont toujours 4 de quelque chose. Par exemple, moi, je vais prendre 10 fourchettes, parce que mes fourchettes, ils ont toujours 4 piquets.
Donc, c'est bien noté. On va poster toute cette liste sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Sarah, pour cette séance sportive avec presque rien. Et ça nous change du foot, c'est vrai. Voilà, on va continuer à bouger, à danser avec Dominique Fike. Et puis, juste après, une fenêtre s'ouvrira sur une nouvelle histoire. Courez, petit singe, et il faudra pouvoir les suivre, les enfants. Merci beaucoup, Sarah.
Streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. 3 nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. Green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's only a matter of time for you to tell me now. I've been a fool. Three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want.
L'école à la radio, 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI. Et tout de suite, une histoire, comme chaque jour, racontée par Héloïse Auria.
Je vais inventer une histoire.
Courez, courez, petit singe.
Une histoire de Juliette Képesh. Trois léopards s'en vont chasser. Ils sont terribles et affamés. Soudain, ils dressent l'oreille. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Trois petits singes qui papotent en mangeant des papayes. Les léopards se précipitent. Ils vont n'en faire qu'une bouchée. Courez, petits singes ! Vite, vite, vite ! D'un bond, les petits singes se retrouvent à la cime d'un arbre et se mettent à bombarder de papayes les pauvres léopards. Les léopards sont furieux. Ils veulent grimper à l'arbre. C'est alors que surgit un boa vert, géant et féroce. Les léopards sont effrayés. Ils courent à perdre haleine jusqu'à la rivière. Et là, que voient-ils ? Les trois petits singes. Sautez, petits singes ! Vite, vite, vite ! Sur la rivière, il y a un crocodile qui flotte comme un bout de bois. Hop ! Les petits singes sautent dessus. Et hop ! Les voici sur l'autre rive. Le crocodile se retourne alors avec convoitise vers les léopards. Eux qui avaient plongé pour rattraper les petits singes, il ne leur reste plus qu'à nager aussi vite qu'ils peuvent jusqu'à l'autre rive, où ils se retrouvent face à d'énormes buffles ornés d'énormes cornes. Et tout là-haut, perchés sur leurs énormes croupes, ils voient les trois petits singes. Cette fois, les léopards n'ont pas trop envie d'aller les admirer de plus près. Les buffles cornus se mettent à charger. C'est la débandade du côté des léopards. Fuyez, petits singes ! Vite, vite, vite ! Voici maintenant nos trois petits singes en train de croquer des noix de coco. Sans penser au danger. Mais bien cachés sous les feuilles, les léopards les espionnent. Ils bondissent, les léopards affamés. Mais ils retombent au beau milieu d'un tas de crabes excités qui les pincent de la tête aux pieds. Aou, 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 aou. Pas facile de s'en débarrasser. Filez, petit singe, vite, vite, vite. Les léopards se pressent pour les rattraper, mais les petits singes restent invisibles. Où sont-ils donc passés ? Ils sont cachés derrière une grosse tortue endormie. Vite fait, ils grimpent sur le dos de la tortue. Ils n'ont pas le choix. La tortue se réveille, fait quelques pas jusqu'à la mer et à grands coups de nageoire s'en va bien loin des léopards. Elle transporte les trois petits singes de l'autre côté de la baie sur une île où vivent de petits singes qui papotent en mangeant des bananes. Ils sont sains et saufs, les trois petits singes. Enfin, ils peuvent manger et dormir en paix et jouer toute la journée, sans jamais se soucier des léopards affamés. Petit singe, sautez, dansez tant que vous voudrez. De l'autre côté de la baie, trois léopards s'en retournent chasser. Encore plus affamés et bien dépités. Pourvu qu'ils trouvent quelque chose de bon à manger et qui soit gros et gras et lent et surtout pas trop rusé. la mise en onde, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Auria. Juliette Kepes a écrit cette histoire qui est publiée chez Didier Jeunesse, à réécouter sans modération.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Et nous retrouvons Sylvia Serbin chez 7 milliards de voisins, l'école à la radio, pour parler de femmes issues d'un temps lointain, trop souvent méconnues de l'histoire du continent. Bonjour Sylvia.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, une femme tout à fait époustouflante, connue dans toutes les cours d'Europe au XVIIe siècle, Anne Zinga, reine d'Angola. Qui était cette femme, cette reine ?
Je dois dire que c'est un des personnages qui m'a le plus impressionnée quand je faisais des recherches pour mon livre. Alors, elle était fille et sœur de roi, et au XVIIe siècle, la reine Nzinga Mbandingola, dite Anne Zinga, a lutté pendant près de 40 ans contre les tentatives d'invasion portugaise de son pays, jusqu'à sa mort en 1663, à l'âge de 80 ans.
Alors, elle est dans un contexte, évidemment, où il y a déjà les appétits des Européens pour profiter des richesses du continent africain.
Exactement. Alors, lorsque les Européens vont commencer à lancer des explorations maritimes, alors je vais les citer quand même, le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne, la France ou la Hollande, donc ils lancent ces explorations pour tenter de conquérir de nouveaux espaces dans le monde. Alors, leurs navigateurs vont faire des escales de ravitaillement sur les côtes africaines et ils vont en profiter pour repérer des territoires riches de ressources. Alors certains vont revenir quelques temps plus tard avec une flotte armée pour s'emparer des territoires convoités. Alors cette implantation va donner lieu à des déportations massives en esclavage des populations les plus vigoureuses pour faciliter la mise sous tutelle de ces pays vidés d'une bonne partie de leurs sources vives.
Et c'est ce qui s'est passé en Angola, donc au royaume
voilà,
de Ndongo.
Alors, c'est ce qui arrive au royaume de Ndongo, qui est rebaptisé Angola par les Portugais. Alors c'était un pays fertile, autosuffisant, qui entretenait des relations commerciales dynamiques avec les territoires voisins. Et donc ça va tout de suite séduire les explorateurs portugais, qui pensaient d'ailleurs trouver sur place des mines d'argent. En 1575, ils vont fonder la ville de Luanda, dont ils feront le plus gros centre d'exportation d'esclaves du continent africain pour alimenter leur nouvelle colonie du Brésil et des plantations américaines. Mmh. Alors l'Angola a mené la plus longue résistance africaine contre des envahisseurs européens. Ses souverains successifs ont lutté pendant une centaine d'années pour tenter de sauver leur territoire, progressivement grignoté face à la supériorité militaire des conquistadors. Et c'est dans ce contexte qu'arrive tout à fait en bout de chaîne, au XVIIe siècle, la reine Anne Zinga.
Oui, Anne Zinga d'Angola, donc notre héroïne aujourd'hui. Elle accède au trône, Sylvia, en 1624, à la mort de son frère, qui était le roi.
C'est ça. Et aussitôt, elle va reprendre le flambeau de la résistance et là, elle va privilégier une tactique de guérilla. Alors, elle est présentée déjà dès l'époque dans des documents militaires européens et surtout portugais comme une stratège de très haut niveau. Elle envoyait des espions à Luanda pour observer l'entraînement des soldats portugais pour améliorer l'efficacité de ses propres troupes qu'elle menait elle-même au combat. Elle multipliait les attaques pendant la saison de l'hivernage quand les soldats blancs étaient affaiblis par le paludisme et ralentis par les pluies. Et jamais les conquistadors n'arriveront à la capturer malgré tous les guet-apens et les raids lancés contre elle en 30 ans d'affrontement.
Ouais, ça peut sembler vraiment incroyable. Donc une femme qui ne sera jamais capturée par ceux qui sont à la conquête du continent africain. Néanmoins, c'est vrai qu'elle va avoir du mal à contenir l'émiettement de son royaume.
Exactement. Hein, face à cette force européenne bien armée, les guerriers africains avec leurs lances et leurs flèches ne peuvent plus grand-chose. Et en 1629, Anne Zinga va se replier vers l'est dans un petit royaume frontalier, le Matamba, qui est un vassal de l'ancien royaume du Ndongo. Elle y reconstitue son pouvoir, elle organise aussitôt un front de résistance avec des chefferies voisines pour défendre cette partie du pays contre les invasions coloniales. Et elle va ouvrir également ses frontières aux réfugiés du Ndongo, traqués par des tribus adverses armées par les Portugais pour livrer leurs compatriotes africains aux négriers européens.
Mmh. Elle écrivait parfaitement le portugais, la reine d'Angola.
Voilà, alors la reine Zinga, très jeune d'ailleurs, dès l'enfance, elle avait appris à parler et à écrire le portugais. Et donc elle va écrire au roi João IV et à Afonso VI du Portugal, ainsi qu'au pape Alexandre VII à
Rome.
Ah oui,
carrément.
Carrément, oui. Bah, elle se considérait comme une souveraine au même titre que les souverains européens. Elle disait « Chacun gouverne son territoire. Dieu ne vous a pas donné nos richesses. Il n'y a aucune raison que vous veniez prendre les nôtres. » Donc elle leur enjoint de laisser son pays tranquille. Et puis elle signait tous ses courriers officiels du titre de reine du Ndongo et du Matamba pour montrer qu'elle n'avait jamais abdiqué, qu'elle n'avait jamais renoncé à son ancien royaume.
Comment est-ce qu'elle a gouverné à l'intérieur de son royaume qui, effectivement, fait face à cet émiettement ? Quel type de reine était-elle avec ses sujets ?
Alors justement, en plus de ses exploits guerriers, Anne Zinga va être une surprenante, un personnage surprenant parce qu'elle reste dans l'histoire comme un exemple de gouvernance féminine. Elle va réorganiser l'administration de son royaume pour doubler les plus hautes fonctions de responsabilité par des postes d'adjoints confiés à des femmes. Attentive à la production agricole, elle avait institué un calendrier obligeant ses hommes, ses sujets hommes et femmes, les nobles et les paysans, à donner un peu de leur temps, trois fois par semaine, pour cultiver les terres de la collectivité, ce qui obligeait les puissants à connaître les mêmes activités que le petit peuple. En outre, elle exigeait que les dames de la cour s'entraînent au maniement des armes, alors le tir à l'arc, le lancer du javelot, comme les autres femmes angolaises, pour être utile à la défense du pays en temps de guerre.
Alors, la féministe et moderne avant l'heure. Anne Zinga est décédée à l'âge de 82 ans. Ça peut sembler quand même assez incroyable au XVIIe siècle, hein, où l'espérance de vie, y compris en Europe, ne dépassait pas probablement une trentaine ou une quarantaine d'années. Je ne veux pas m'avancer, hein, mais me semble-t-il. Alors, elle a quand même eu un frère violent qui, lorsqu'il était roi, a été terrible avec elle.
Oui, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que donc elle a régné jusqu'à la fin de ses jours et elle a réussi à imposer au Portugal un dernier traité en 1657 par lequel Lisbonne renonçait à ses prétentions de protectorat sur le Matamba. Donc elle a réussi à protéger son pays. Alors je disais, elle a souffert aussi dans sa part parce que son frère qui était le roi était particulièrement tyrannique et jaloux de la considération que le peuple vouait à cette princesse. Et donc, elle avait un petit garçon qui a été assassiné par le roi pour empêcher que ce soit la dynastie de sa sœur qui puisse régner un jour.
Ce qui ne l'a pas empêché de devenir reine. Et elle a suscité aussi une grande curiosité dans les cours d'Europe. Et je crois que c'est grâce à ça aussi que vous avez des sources écrites pour avoir écrit ces pages sur la reine Anne Zinga d'Angola.
Exactement, elle a eu beaucoup de publications d'auteurs italiens, portugais, français, allemands, hollandais, subjugués par l'extraordinaire résistance de cette femme noire. À une époque où on disait que les Noirs étaient inférieurs, et elle avait tenu tête à une armée européenne pendant si longtemps. Ouais. Et dès le XVIIe siècle.
Dès le XVIIe siècle, oui. Merci beaucoup Sylvia Serbin. Pour en savoir plus sur cette reine d'Angola et nous éclairer encore davantage sur toutes les autres reines d'Afrique et héroïnes de la diaspora noire, votre livre très documenté est paru avec ce même titre, édition Medunetter. Et tout est noté bien sûr sur notre page 7 milliards de voisins sur le site rfi.fr. Merci à vous. À demain, les voisins et les voisines.